Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 16h à Bamako, 17h à Brazzaville. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Burundi, dans un rapport publié ce mardi, Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits humains basée à New York, dénonce la répression à l'approche du référendum sur le mandat présidentiel et accuse le gouvernement burundais d'emprisonner et de tuer les opposants. Les précisions de John Lyndon.
Selon l'organisation, les forces gouvernementales du Burundi ainsi que des membres du parti au pouvoir ont tué, passé à tabac ou intimidé des citoyens perçus comme étant des opposants à un référendum constitutionnel prévu pour le 17 mai 2018 et qui permettrait au président de rester au pouvoir au-delà du terme de son mandat actuel. Il n'y a guère de doute que le référendum qui s'annonce sera accompagné de nouveaux abus, a déclaré Ida Sawyer, directrice pour l'Afrique centrale de Human Rights Watch. Elle note également que des responsables burundais et les Imbonerakure commettent des violences avec une impunité quasi totale afin de permettre à Nkurunziza de renforcer son emprise sur le pouvoir. L'annonce en avril 2015 de la candidature du président Nkurunziza à un troisième mandat controversé avait marqué le début d'une crise politique qui a fait au moins 1 200 morts et plus de 400 000 déplacés, selon les sources, notamment l'ONU et des ONG.
En Belgique, le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Claus, a annoncé ce mardi son intention de faire inaugurer le 30 juin dans sa commune une place Patrice Lumumba, qui sera le premier lieu public dans le pays, rendant hommage à cet éminent leader du combat de l'ex-Congo belge pour son indépendance. Le conseil municipal doit adopter lundi prochain une résolution en ce sens, a souligné M. Claus. Patrice Lumumba fut le premier chef de gouvernement du Congo ex-belge après son indépendance en 1960. Perçu comme pro-soviétique par les Américains et désavoué par les milieux d'affaires belges, le premier ministre Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961 à 35 ans dans la province du Katanga avec la complicité présumée de la CIA, du M16 britannique et de la Belgique. La place Lumumba se trouvera à l'entrée de Matongé, le quartier de la communauté congolaise à Bruxelles.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Sénégal, l'élu d'opposition Barthélémy Diaz, proche du maire de Dakar, Khalifa Sall, récemment condamné le 30 mars à 5 ans de réclusion pour escroquerie, a écopé ce mardi d'une peine de prison de 6 mois de prison ferme pour outrage à magistrat. Le parquet avait requis lors du procès le 8 mars 2 ans de prison contre M. Diaz, qui avait plaidé non coupable des accusations notamment d'outrage à magistrat et d'avoir provoqué un attroupement non armé. Partisan fervent de Khalifa Sall, Barthélémy Diaz s'en était vivement pris au juge après la condamnation du maire de Dakar le 30 mars à 5 ans de prison et plus de 7 600 € d'amende pour escroquerie sur les deniers publics et fonds en écriture. Khalifa Sall impute ses déboires judiciaires à son statut d'opposant au chef de l'État Macky Sall, lequel l'aurait fait traduire en justice, dit-il, pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2019. Au Nigeria, deuxième jour consécutif d'accrochage ce mardi à Abuja entre les forces de police et des manifestants réclamant la libération du dirigeant religieux chiite pro-iranien Ibrahim Zakzaki, en détention depuis 2 ans. Ibrahim Zakzaki, leader de l'IMN, le mouvement islamique du Nigeria, a été arrêté en décembre 2015 après des affrontements meurtriers entre ses partisans et l'armée à Zaria dans le nord. Il est toujours en détention malgré une décision de justice ordonnant sa libération. La police a dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène et procédé à plusieurs interpellations. Lundi, des heurts avaient déjà éclaté avec la police. Il avait annoncé avoir arrêté au moins 115 partisans de l'IMN dans le cadre des manifestations à Abuja pour réclamer la libération de leur leader. Ibrahim Zakzaki et l'IMN souhaitent établir un État islamique chiite à l'iranienne dans un pays où les sunnites sont majoritaires chez les musulmans. Et pour terminer, la Guinée-Bissau a un nouveau premier ministre de consensus depuis lundi, Aristides Gomes. La mission principale du chef du gouvernement investi hier, conduire le pays jusqu'aux législatives de novembre et mettre fin à une crise politique qui sévit depuis plus de 2 ans. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Eric Manelakiza pour la Minute Echo. La BAD va débourser plus de 43 millions d'euros pour la construction du pont sur le fleuve Logone entre les villes de Yagoua au Cameroun et Bongo au Tchad. Il s'agit d'un financement partiel du projet car la BAD devra débloquer au total 66 millions d'euros pour l'ouvrage. Ce pont est long de 650 mètres pour environ 92 milliards de francs CFA. Le Cameroun doit réunir 58% du financement et le Tchad 42%. Le FMI veut reprendre son programme de financement pour le Tchad. L'accord conclu entre N'Djamena et un groupe de créanciers composé de la société Glencore et quatre autres banques a motivé la décision de l'institution de Bretton Woods. L'accord porte sur la restructuration $1 milliard de dettes de l'État tchadien envers ses entreprises. Le FMI va débloquer $51 millions qui s'ajoutent aux $48 millions débloqués l'année passée. La Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et l'Éthiopie ont convenu d'un financement de $57 millions pour la rénovation de l'Africa Hall. Le projet vise à moderniser les installations du site, préserver et restaurer les valeurs historiques et culturelles ancrées dans son architecture.
VOA Afrique, dites-le à un ami.
Collab, yeah. She wants some collab, I can see.